Bienvenue sur The Thinking Gallery, le podcast qui décortique la pensée des leaders d'aujourd'hui afin d'anticiper le monde de demain. Je suis Paul Terrasson-Duvernon et je suis accompagné de mon fidèle acolyte Arthur Derberian. Vous êtes prêts? Abonnez-vous et on vous propose de plonger dès à présent dans The Thinking Gallery.
L'Europe est en train de se... D'abord, l'Europe a des satellites. Hein. On a des satellites militaires. On a des
mais
satellites...
pas de télécommunications comme ce que va faire Starlink, comme ce que fait Starlink.
Alors si, si, c'est en train d'arriver. Et l'Europe, en fait, en Europe, tu as... Donc voilà, je voulais vous parler des acteurs. Ouais. Tu as deux choses différentes. Tu as, aux États-Unis, tu as la NASA qui pilote les programmes spatiaux. Et en Europe, tu as l'ESA. Donc l'ESA est l'Agence spatiale européenne. En France, tu as ce qu'on appelle le CNES. Alors, tout à l'heure, on parlait de grandeur financière. La NASA, c'est à peu près un budget de 27 milliards. Voilà, c'est quand même conséquent. Hein. Le budget de la France, c'est 200 milliards. Hein. Donc ça fait 10% du budget de la France. L'ESA, donc l'Europe spatiale, c'est un budget de 7 milliards. Et le CNES, c'est 2,5 milliards. Donc, quand tu n'as pas tous les moyens américains, tu ne peux pas faire tous les programmes. Donc, il faut se positionner sur des programmes. Et puis, à côté de ça, tu as l'Europe, Thierry Breton, qui a été un des dirigeants de France Télécom, des télécommunications, qui est un homme qui maîtrise parfaitement les grands programmes, qui est un passionné d'industrie, qui est un passionné de télécom. Et qui dit, en fait, il faut être compétiteur par rapport aux grands programmes américains, sinon on ne pourra pas s'en sortir. Et donc, il a lancé, de façon imminente, ce qu'on appelle le programme IRIS carré, IRIS 2, qui est un programme d'une constellation européenne sécurisée pour le grand public, mais également pour les gouvernements. C'est-à-dire qu'en fait... il n'y aura pas simplement les constellations américaines, il y aura une constellation européenne qui sera souveraine et qui permettra aux Européens d'avoir cette autonomie dont parlait De Gaulle. Et je pense que c'est un très très grand sujet. L'autre sujet, c'est pour l'Europe, c'est quelle va être sa priorité. Alors Elon Musk nous explique qu'il va sur Mars. Est-ce que c'est une priorité pour nous? Pas forcément. Par contre, le vol habité peut être une priorité.
Concernant les constellations, est-ce que le fait justement d'avoir une constellation européenne, ça va au-delà des enjeux économiques, mais aussi pour des enjeux militaires? C'est-à-dire justement même d'avoir du privé qui puisse assurer des télécommunications, ça puisse permettre, en cas de conflit, d'éviter des coupures ou...
Alors, c'est une très bonne question, parce que En fait, l'Europe est en train de comprendre comment a fonctionné les États-Unis. Et on l'a dit, les États-Unis se sont entourés d'acteurs commerciaux. Aujourd'hui, tu as un commandement de l'espace en France qui est implanté à Paris et à Toulouse, mais qui est implanté à Toulouse au sein du CNES et qui, dans 2 ans, aura à peu près 500 collaborateurs. Et ce commandement de l'espace a comme mission d'opérer de façon militaire, c'est-à-dire d'une part de surveiller ce qui se passe dans l'espace pour protéger nos propres actions, nos propres équipements, et puis nous renseigner sur ce qui se passe vraiment.
Et quand on est loin de Star Wars hein, sur les applications, c'est ça?
En fait, on n'est pas loin de Star Wars. On n'est pas si loin de Star Wars. Okay. Parce que quand tu es dans la salle du commandement de l'espace, tu vois l'ensemble de la galaxie et tu vois des satellites qui se poursuivent, qui se pourchassent, notamment des satellites russes et des satellites chinois. Et c'est vrai que dans l'espace, tu n'as pas forcément besoin d'utiliser des armes, mais par exemple, si je te frôle ton satellite, ça va le désorbiter et du coup, c'est terminé. En fait, c'est beaucoup plus subtil qu'on l'imagine. C'est une espèce de guerre, là aussi froide, on appelait ça froide parce que justement, elle n'était pas ensanglantée. C'est une guerre technique et le commandement de l'espace a comme mission d'assurer la protection, la surveillance. Et donc, lui-même fait appel aujourd'hui, comme les Américains, à des acteurs privés. Et dans l'exercice Astérix que nous avons eu à Toulouse récemment, il y avait des acteurs privés qui viennent apporter leurs compétences techniques, technologiques, parce qu'ils vont plus vite dans les programmes. Jadis, les grands programmes, un grand programme, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est très long. C'est très long, ça demande des ingénieurs, ça demande de la redondance, ça demande de la sécurisation à tous les niveaux. C'est ce qui fait que la technologie est parfaite, et ça a été le sujet d'Ariane pendant de très nombreuses années, une technologie parfaite. Par exemple, le télescope James Webb là, qui a été lancé par Ariane a été tellement lancé de façon tellement précise que ça a augmenté la vie du satellite et ses capacités de perception. Donc on voit très très bien l'importance. Donc on fait le commandant de l'espace est en train de faire appel, de rencontrer un certain nombre d'acteurs, parce que ça vient consolider les technologies françaises, qui sont peut-être plus robustes et plus rustiques, et qui ont besoin d'évoluer, comme les Américains, vers plus de compréhension et plus de connaissances.
Et du coup, pour revenir sur les vols habités, Virgin Galactic vient de lancer sa première navette de tourisme spatial. Est-ce que ça, c'est une piste que les Français et les Européens creusent? Est-ce que c'est quelque chose dans lequel toi, tu crois? Est-ce que c'est quelque chose qui a de l'avenir?
Alors, c'est absolument quelque chose qui a de l'avenir. Je pense que c'est absolument très important. On a bien vu le travail extraordinaire qu'a fait Thomas Pesquet. Hein. Vraiment, il faut passer du temps dans l'espace pour pouvoir faire des expériences. Et ces expériences, finalement, 3 mois d'expérience apprend tellement de choses qu'on gagne des années en termes de science et de technologie. Donc, ça nous paraît très important. Ça va nécessiter d'avoir une technologie adaptée. Alors aujourd'hui, effectivement, on voit des avions qui décollent avec une petite navette embarquée. Des acteurs français sont en train de travailler sur ces sujets-là.
Il y a des exemples d'acteurs français?
Oui, mais on ne va pas les citer parce que c'est un peu confidentiel. Mais le sujet, c'est vraiment se lancer dans l'exploration spatiale à partir de l'homme. Et puis tu as ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire ces fameuses usines dans l'espace. Eh bien, il va bientôt falloir les construire. Et aujourd'hui, vous savez que l'aéronautique vit également une révolution, c'est-à-dire que maintenant, on a des drones. Un drone, c'est un avion sans pilote, c'est-à-dire qu'on est capable de l'opérer au sol. Eh bien, je pense que la station chinoise s'est construite avec des fusées, avec des drones. En fait, le transport spatial va devenir un segment d'activité à part entière, et la logistique spatiale vont devenir des segments d'activité. Et c'est très intéressant parce que...
Alors, pour revenir peut-être sur le pourquoi... cette conquête et à quoi ça sert. Est-ce qu'il y a des sujets d'innovation aujourd'hui qui peuvent être faits que dans l'espace et qui nécessitent justement d'aller faire des voyages là-haut, autre que uniquement le fait d'aller plus loin dans la production? Est-ce qu'il y a vraiment des sujets presque pour sauvegarder notre humanité qui mérite qu'on aille dans l'espace ou pas?
On les a cités tout à l'heure, hein, les grands programmes qui sont des programmes technologiques, qui sont des programmes de médecine, qui sont des programmes agricoles, qui sont des programmes de surveillance de la Terre, de surveillance de l'atmosphère. Tout ça contribue, hein, vraiment. Vous voyez, par exemple, en agriculture, jadis, on labourait son champ. Aujourd'hui, un tracteur, c'est quasiment une navette spatiale. Hein. Vous avez un joystick, vous avez des écrans partout, et vous êtes piloté par satellite. Ouais. Alors, en plus, maintenant, il y en a qui se conduisent tout seuls, effectivement. Mais globalement, ce que dit le satellite, c'est il analyse la Terre, il analyse le taux d'hygrométrie, il analyse la minéralité de la Terre, et il dit, ben là, il faut mettre soit plus d'eau, soit moins d'engrais, soit et ils qualifient les voilà. Comment dire, l'agriculture devient une science, c'est technologique. Et donc, on augmente les rendements sur une même parcelle, on a plus d'efficacité. Tout ça, c'est grâce à l'espace. Les voitures dont on parlait, les voitures Tesla, elles sont connectées en permanence. Je ne sais plus si vous vous souvenez, mais à un moment donné, il y a eu des grands incendies en Californie ou en Floride. Et Tesla a décidé d'augmenter le range de ses véhicules simplement par des effecteurs électroniques en disant « voilà, parce que ça va permettre de sauver des vies ». Et donc, on voit bien que la technologie, en fait, est au service de l'humanité, de la préservation de l'homme et de plus de qualité sur Terre et de plus d'écologie quelque part. Je vais vous citer un autre exemple et ça va peut-être vous faire bondir, mais Nutella utilise les satellites simplement pour observer, pour démontrer qu'ils n'utilisent pas d'huile de palme.
Ok. Hein, et ils n'utilisent plus d'huile de palme, Nutella.
Je ne suis pas consommateur.
T'es pas dans les petits papiers.
Et pour démontrer que en fait il n'y a pas de déforestation et que ils sont dans des programmes de reforestation. Donc pour eux,
ouais, mais là c'est de la communication, c'est pas utile en soi.
Si, c'est utile parce que tu dois pouvoir communiquer auprès de tes actionnaires, auprès des gens qui financent tes programmes, et ceci c'est en train de tout changer. Aujourd'hui, par exemple, un des grands défis des startups, c'est qu'elles doivent, vous le savez, lever de l'argent continuellement pour pouvoir effectuer leur programme et leur progression. Et aujourd'hui, tu as ce qu'on appelle les exigences environnementales, c'est-à-dire que tu ne peux plus lever d'argent si tu es dans des activités carbonées, polluantes, parce que les fonds d'investissement eux-mêmes arrivent à lever de l'argent que s'ils démontrent qu'ils sont dans le décarboné. Et donc cette exigence-là, qui est une exigence très européenne, hein, qui fait partie, on va dire, des fondamentaux européens et qui voudrait être opposée au reste du monde pour justement plus d'écologie et plus de préservation de la Terre, cette exigence fait que, entre guillemets, on est dans une dynamique beaucoup plus vertueuse en France et en Europe, et que tout ce qui est polluant ne va plus pouvoir se faire financer. Et donc, tout ça a un sens. Tout ça a un sens fondamentalement.
Par rapport, justement, tu le mentionnais, on va avoir besoin, donc on a des enjeux environnementaux à la fois au niveau de l'opinion publique, on va avoir besoin d'envoyer peut-être des usines, pourquoi pas des voyages spatiaux. Par rapport à tout ça, c'est quoi, selon toi, les futures barrières techniques à faire sauter? Est-ce que ça va être plutôt trouver des nouveaux moyens de propulsion qui sont avec une plus grande autonomie? Est-ce que ça va être faire des fusées plus légères? Est-ce que ça va être...
Alors, c'est une excellente question. Alors,
grandes innovations
sur le fait d'envoyer des gens dans l'espace tout de suite, des touristes? Bon, il faut comprendre que en 1850 à Paris, tu as eu la création de la première gare qui devait être la gare Saint-Lazare, et qui en fait était un espèce de quai d'embarquement, on appelait ça un embarcadère. Et au début, tout le monde s'est dit, mais ça sert à quoi? Ça n'a pas d'intérêt. On était quand même avec des carrioles en bois, avec des chevaux. Et on s'est dit, mais c'est quoi ce truc de bobo qui... Parce qu'en fait, ça emmenait les gens du côté de Versailles et du côté de la belle campagne. Et ça a été très, très critiqué. Et en fait, très rapidement, on s'est aperçu que ça fonctionnait. D'abord, il n'y avait pas d'accident, que c'était régulier et que, en fait, ça permettait effectivement de sortir de Paris, mais également de faire rentrer dans Paris des marchandises et donc d'alimenter la capitale. Et donc, très rapidement, tu as eu un engouement sur le train et tu as eu la construction de la gare Saint-Lazare, de la gare du Nord, de la gare, on va dire, du Sud, qui était Orsay ou gare de Lyon, et puis Montparnasse. Et je crois qu'au bout de 20 ans, on a été obligé de tout détruire pour tout reconstruire tellement le succès a été là. Alors, on est à l'échelle de la France. Hein. Je vous rappelle qu'en France, il y a quand même un siècle, on n'avait pas la même heure à Marseille qu'à Paris. Chaque territoire, entre guillemets, avait une délimitation, avait des horaires spécifiques, et c'est le train qui, entre guillemets, a déterminé l'heure horaire et qui a fait que ben il fallait être précis. Le départ du train est telle heure, il doit arriver à telle heure.
L'heure n'était pas indexée sur absolument. Le soleil, etc.
Non. C'était chaque territoire avait son
référentiel.
Son référentiel. Donc voilà, ce qui paraissait à un moment donné un truc de bobo, un truc stupide, en fait, a connu un très très grand engouement. Donc la question aujourd'hui des touristes qui vont dans l'espace, est-ce que c'est un truc de bobo stupide? Certainement, parce que pour le moment...
Pour l'instant, il n'y a pas d'utilité en tout cas.
Alors, oui, mais...
Peut-être que quand on a inventé le train, il n'y avait pas d'utilité directement imaginable, mais on pouvait quand même se dire que ça permettait de rentrer et d'aller d'un point A à un point B, et donc de transporter quelque chose d'un point A à un point B, donc potentiellement de la nourriture, des gens, etc. Là, en l'occurrence, on va d'un point A à un point A en passant par l'espace.
C'est la même chose. On va aller d'un point A à un point usine. On va livrer des choses. On va avoir des gens qui vont faire des expériences.
Donc tu vois plutôt le transport de personnes plutôt dans un cadre professionnel, c'est-à-dire que on va transporter des personnes qui vont aller travailler dans des usines.
Là, c'est ça la grande différence, c'est-à-dire
qui vont pas aller faire du tourisme pour aller faire leur selfie en haut de à la limite de l'espace et revenir sur Terre, poser sur Insta.
Voilà, je pense que l'idée là du tourisme, en fait, c'est l'idée de dire d'avoir peut-être une réflexion philosophique sur le sujet. Alors évidemment, tu as toujours des milliardaires qui ont la possibilité de faire, mais lorsque tu parles avec Thomas Pesquet, il t'explique que en fait, la vie dans une station spatiale, c'est pas une sinécure, c'est-à-dire c'est pas une semaine de vacances.
Ah non. Ouais.
Ça sent très mauvais. T'as des odeurs, des bruits électroniques. Et Thomas dit, lorsque je fais une sortie dans l'espace et que je reviens, c'est quand même très très difficile, quoi. Hein, donc. En fait, les astronautes ne le disent pas, mais ce n'est pas du tout une promenade de santé. En plus, quand tu es en apesanteur, il faut que tu fasses du sport tous les jours.
Physiquement, c'est très compliqué.
C'est compliqué pour ton ossature. Donc, il y a beaucoup de contre-indications. Donc, le simple fait qu'il y ait des touristes, déjà, ça permet de montrer que la chose est possible, elle est envisageable, et ça permet d'acculturer au fait que on pourra faire ça. Et je pense que en ce sens-là, c'est pas dénué d'intérêt. Et par ailleurs, ça permet de drainer des investissements parce qu'il y a des gens qui y croient. C'est une espérance partagée. Alors, comme c'est pas forcément une semaine de vacances que d'être dans l'espace, vous savez que les Français sont créatifs. Voilà. Donc, on a par exemple à Reims, nous fabriquons des fusées à Reims, je le rappelle, on a une grande maison qui s'appelle Moom. Et qui, grâce à un designer fantastique, là, qui s'appelle Octave de Gaulle, c'est étonnant.
Encore un de Gaulle,
finalement, a designé ce qu'on appelle la bouteille de champagne de l'espace. Et donc, c'est une bouteille avec des pistons. Et dans l'espace, lorsque tu ouvres une bouteille de champagne, en fait, tu n'as pas de liquide, mais tu as une espèce de granularité que tu croques. Et l'idée, elle est de dire, et elle est philosophique, l'idée est de dire que finalement, l'homme dans l'espace perd ses repères. Ouais. Il n'a plus de repères, on va dire, du son, de l'odeur, perd ses repères physiques, perd ses repères même psychologiques. Et la bouteille de champagne, par le goût du champagne, va lui redonner la saveur de la civilisation sur Terre. Et donc,
c'est quand même un luxe de se redonner le goût de la civilisation par du champagne.
C'est pas un luxe, à mon avis, c'est une nécessité. On a besoin de savoir que l'on est un homme.
Champagne est une nécessité.
Voilà, le champagne est le fruit du travail de la terre. C'est fondamentalement français et les Américains trouvent ça complètement délirant et nous envient ça, quoi. Voilà.
On part un peu du postulat que envoyer plein de choses dans l'espace, c'est bien et qu'il n'y a pas de risque de. Qu'à un moment, il y ait trop de satellites et trop d'objets dans l'espace et que ça crée une pollution et des déchets. Est-ce que c'est un risque ou pas? Aujourd'hui, il y a beaucoup de déchets qui se battent dans l'espace parce qu'on redescend pas ce qu'on envoie dans l'espace. Et donc, il y a des objets qui sont en libre gravitation et qui risquent de se rentrer dedans, etc.
C'est un vrai problème, en fait. Hein. C'est un vrai problème parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, la multiplication des satellites. Il faut comprendre que, en fait, un satellite a une durée de vie limitée. Un satellite, c'est envoyé par une fusée. Ensuite, ça fonctionne avec des panneaux solaires.
Pendant une dizaine d'années?
Bah, beaucoup moins, en fait. Ça peut être de 3 à 5 ans et plus performant jusqu'à 8 ans. Donc, en fait, une fois que ces satellites sont, ont atteint leurs limites techniques et physiques, eh bien, ils deviennent des objets polluants. Alors, la France est très en avance sur tous les sujets d'écologie, de réglementation, et donc vous savez qu'il y a une loi qui s'appelle la LOS et qui vise à un petit peu réguler le spatial, parce que pour le moment le spatial n'est pas du tout régulé, quoi. On n'y fait pas exactement ce qu'on veut, mais globalement c'est un sujet. On a eu, après la première conquête spatiale en 1967, on a eu un premier traité de l'espace entre les différents acteurs. Et dans les années 80, on a créé une convention sur l'immatriculation des objets lancés. C'est-à-dire que l'idée, c'était de se dire, mais à qui appartient quoi? Et on ne peut pas faire n'importe quoi, on veut une traçabilité. Bon, mais aujourd'hui, la multiplicité des objets et puis tous ceux qui tombent en désuétude. Donc la France a proposé que les objets soient à un moment donné réglementairement désorbités. C'est-à-dire que tu fais en sorte que ton satellite revienne dans l'atmosphère et à ce moment-là, quand il revient, il est désintégré. Et donc ça limite, on va dire, la pollution spatiale. Mais c'est un vrai sujet parce que les satellites tourne quand même à 28 000 km/h et que donc la moindre petite chose dans l'espace, désintègre tout ce qu'elle touche. Et donc la station spatiale, tenez-vous bien, elle est blindée. Justement à cause de ça, parce que.
Oui, mais par exemple, la station spatiale, c'est un super exemple. Le jour où il va falloir la redescendre sur Terre.
Il arrive bientôt ce jour-là.
Voilà, il arrive bientôt. La station spatiale, elle est blindée, elle est pleine de matériaux qui sont faits pour que si, quand elle va redescendre, elle va pas se décomposer. Elle va pas les atomes vont pas tous se séparer et finir juste en particules fines qu'on va pas sentir arriver sur Terre. Du coup, on sera obligé de la faire atterrir au milieu de la mer de l'Atlantique, je crois.
Non, c'est dans le Pacifique.
Aussi en Pacifique, au moins il y a un espace de quelques kilomètres carrés où on peut faire atterrir des choses qui est réservé pour faire descendre des choses de l'espace. Ça reste quand même un calcul à la microseconde.
Tu vois comment on désarme un bateau. Donc il y a effectivement un certain nombre de pièces qui vont être démontées. Ça va créer une nouvelle activité qui est celle de monter, c'est celle de démonter. Donc tu as du service dans l'espace et je pense que ce qui sera désintégré sera, la carcasse. Tout va être, tout est pensé pour être réutilisé. Donc je pense que ça sera une expérience en soi. Ça sera une expérience en soi. Mais pour les futures usines. Donc, on a dit tout à l'heure 13 usines, c'est un nouveau sujet. Et quand on parle de 13 usines, c'est 13 usines américaines connues. C'est-à-dire que les Chinois, nous n'avons pas d'informations sur
ce qui... Et les Européens ?
Les Européens, pour le moment, ils sont en train de se poser la question. On n'y est pas encore.
On se pose souvent les questions après les Américains, quand même.
Eh bien, oui, parce que les Américains sont un peu des explorateurs, sont des aventuriers. Les Français sont des très, très bons ingénieurs. Et donc, on n'est pas forcément sur les mêmes façons de fonctionner, quoi. Donc, c'est pas... bien sûr.
Merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. N'oubliez pas de noter ce podcast 5 étoiles sur votre plateforme préférée. C'est le meilleur moyen de nous soutenir. Et surtout, si l'épisode vous a fait penser à quelqu'un, n'hésitez plus et partagez-le lui tout de suite. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre sujet. À très vite.